Donc Claude Bocobza, parler ou faire, l'accueil mère-enfant dans les cas de perturbation profonde de la relation. Claude, vous avez la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup.
Alors, je trouve que mon exposé vient tout à fait bien parce qu'il me semble dans le droit fil des deux exposés que nous avons entendus précédemment ce matin. Moi, je voulais vous parler d'une expérience d'une institution qui a été. Alors, c'est l'expérience de l'unité d'accueil mère-enfant du centre hospitalier de Saint-Denis, qui est née en 1992 du désir de l'équipe que nous étions alors, une équipe de pédopsychiatrie, d'accueillir des mères en détresse avec leur bébé, dans l'idée un peu confuse, un peu générale à ce moment-là, de prévenir les pathologies de l'enfant, pathologies qui pourraient être dues à des défauts du lien précoce ou éventuellement à des séparations intempestives et mal préparées. Dans l'expérience des consultations que nous menions déjà avec ces jeunes femmes en mal d'être mères, il nous apparaissait que, bien qu'elles soient très demandeuses d'être écoutées, en ce moment que la plupart d'entre vous ici connaissent bien, ce moment très fécond de la périnatalité, elles attendaient autre chose de nous. Alors autre chose, en effet, elles arrivaient avec le bébé dans son couffin ou dans son kangourou, le biberon, le paquet de couches, et elles demandaient « Mais où je le mets? Où est le chauffe-biberon ?» Et alors nous étions tout aussi empêtrés qu'elles, à ce moment-là, à répondre à ces demandes. Il m'a alors semblé qu'elles nous convoquaient à nous impliquer avec elles dans les soins, qui sont des soins corporels, à donner au bébé. D'où l'idée de leur proposer un lieu contenant où manifester et travailler leurs difficultés à materner cet enfant-ci. D'emblée, et encore une fois de façon plutôt intuitive, nous avons conçu un accueil en petits groupes de ces mères avec leur bébé, à la journée ou à la demi-journée, toujours couplé à des entretiens individuels avec l'un des psychanalystes de l'équipe. Cette institution a rapidement obtenu un statut d'hôpital de jour mère-enfant. Nous étions bien sûr imprégnés de notre travail avec Françoise Dolto, de tout ce qu'elle avait apporté sur le bébé, sur la relation précoce mère-enfant, sur la constitution de l'image inconsciente du corps, etc. Et pour ma part aussi, de l'expérience de la Maison Verte que je connaissais bien. Mais pour ce que nous voulions faire, nous n'avions pas de modèle. C'est guidé par les mères et les bébés que nous avons construit et affiné notre cadre institutionnel qui nous a conduit à quelque chose de bien différent de la Maison Verte. Dans la pièce de l'accueil, les mères sont invitées à faire ce qu'elles font à la maison, tétée, biberon, change, bain, endormissement, etc. Après avoir donné le repas de midi à l'enfant et l'avoir couché, la plupart d'entre elles déjeunent là avec les accueillantes. Celle-ci, infirmière psychiatrique, puéricultrice et psychologue, assistée d'une psychomotricienne et d'une danseuse, ne s'occupe pas des enfants à la place des mères, ne leur enseigne rien, bien sûr, mais accompagne par leur présence et leurs paroles, par des jeux, de la musique, tous ces gestes quotidiens et ces mouvements des mères et des enfants. Les consultations, elles, ont lieu dans un bureau spécifique, soit avec la mère et l'enfant, parfois le père, soit avec la mère seule, l'enfant restant alors en compagnie des accueillantes, soit dans de très rares cas, avec l'enfant seul ou accompagné de sa mère. C'est le modèle psychanalytique qui prévaut pour ces consultations, le même consultant recevant la mère dès le premier entretien et tout au long de son séjour dans l'unité, qu'il soit psychiatre ou pas. Aucun diagnostic n'est posé a priori. La confidentialité de ces entretiens est garantie aux patientes. Ce n'est qu'en réfléchissant dans l'après-coup sur notre pratique et en essayant de la théoriser que j'ai rencontré des textes de Françoise Dolto qui m'ont semblé parler mot pour mot de cette pratique. Textes que, pour ma part, je n'ai jamais vu citer ou commenter, si ce n'est hier dans l'exposé de Monica Peruzzi. C'est peut-être pas un hasard. Et c'est donc sur cet éclairage de notre pratique et des difficultés de la relation précoce parent-enfant que je voudrais revenir aujourd'hui, en guise d'hommage fait à Françoise Dolto de ma propre clinique. Dans une série de débats organisés par le groupe de recherche et d'études sur le nouveau-né, en 1977, dans le service du docteur Chavignier à la maternité Saint-Vincent-de-Paul, Françoise Dolto exprimait des idées à la fois novatrices pour son époque et décalées par rapport à ce qui était considéré comme révolutionnaire à cette même époque. La naissance sans violence, le dépistage de la maltraitance, etc. Elle raconte dans ce débat tout d'abord l'histoire, alors cette histoire-là a été retenue, elle est bien connue, d'une nouvelle accouchée dans l'hôpital Bretonneau, je crois, où Françoise Dolto à l'époque était interne, qui, après avoir eu une première montée de lait satisfaisante, a vu son lait se tarir. La surveillante de la maternité, en parlant avec cette jeune femme, apprend qu'elle avait été elle-même abandonnée par sa mère à la naissance. Cette surveillante a alors l'audace de mettre le bébé dans les bras de la mère et de la materner elle-même, allant jusqu'à lui faire boire le biberon destiné à l'enfant. Bien sûr, le lait est remonté, et la jeune mère est devenue, dit Françoise Dolto, la meilleure nourrice du service. Il est à souligner que lorsque cette histoire a été retenue dans la légende doltoïenne, en quelque sorte, on dit généralement, je l'ai encore lu récemment, que c'est Françoise Dolto elle-même qui a pris cette jeune accouchée dans ses bras. Or, Françoise Dolto commente ainsi. « Je dois dire que personnellement, je n'aurais jamais osé faire ce qu'a fait cette surveillante. Les psychanalystes, on écoute, on penserait que si elle avait bien pleuré sa maman, ça aurait suffi. Eh bien, chapeau à cette surveillante qui a su faire ce qu'il fallait, psychologiquement, humainement, en ayant compris bien plus loin et bien plus profondément que nous. » Fin de citation. Alors, ce qui me semble remarquable ici, c'est la différence que fait Françoise Dolto entre nous, les psychanalystes, et les soignants qui s'impliquent dans le faire avec la mère ou le bébé. Ceci, déjà, me semblait rendre compte de l'articulation dans notre travail institutionnel entre la fonction des accueillantes et celle des consultants. Les accueillantes définissent leur travail, que nous appelons dans notre jargon la clinique de l'accueil, comme un « faire avec » ou un « vivre avec », reprenant là une expression de Françoise Dolto. Tout ce que je vais citer de Françoise Dolto vient toujours de ce même texte, ce même débat. Il ne s'agit pas, bien sûr, de materner systématiquement toutes les mères, mais ce qui est éminemment difficile et exigeant, de savoir faire le bon geste au bon moment, accompagné des mots justes. Ceci répond non pas à une division qui serait forcément hiérarchisée du travail, les soignants qui font et les psychanalystes qui écoutent, mais à un trait propre à la clinique des difficultés de la périnatalité. Je cite Françoise Dolto, « Ça ne suffit pas du tout pour une mère qui vient d'accoucher de l'écouter. Le dire n'a pas tellement de rapport avec le vécu, la motricité, le fonctionnel en jeu. » Et elle ajoute, « Le langage de la mère à ce bébé-là est un langage psychomoteur et un langage fonctionnel adapté à cet être-là. C'est un langage végétatif dont elles sont absolument inconscientes. » Toutes les mères que nous recevons disent, « Avec ce bébé, je ne sais pas y faire. » Même lorsqu'elles viennent de milieux culturellement défavorisés, elles s'irritent. Quand est-ce qu'il va parler, celui-là ? La parole qu'elles appellent de leurs vœux leur apparaît bien sûr comme une échappée possible face à leur incapacité à donner sens aux demandes du bébé, mais aussi comme un évitement possible des échanges corporels qui les mettent en difficulté. Ainsi, Isabelle arrive à l'unité avec son bébé Melvin, âgée de moins de 3 mois, qu'elle allait. Elle a déjà consulté un psychologue, mais cela ne lui a pas convenu. Il me demande de lui parler de mon enfance, mais moi, je veux comprendre qu'est-ce qui fait qu'être mère, ça déclenche tellement de choses. Chaque matin, je me sens en face d'un gouffre. Elle est en effet dans une très grande détresse. Elle porte son bébé de façon tout à fait inadaptée. Ses rythmes sont désynchronisés par rapport à ceux de l'enfant. « Il y a beaucoup de moments, me dit-elle, où je ne sais pas quoi faire avec mon bébé. J'ai peur d'une catastrophe ou que ça se dérègle. Je le trouve de plus en plus inconfortable dans les moments de veille. Je ne sais pas quoi lui donner à faire. Elle pense que son bébé s'ennuie, qu'il se lasse d'être seul avec sa mère. C'est bien sûr de sa lassitude à elle qu'il s'agit. Quand elle est chez elle avec Melvin, elle regarde tout le temps sa montre. Sa lassitude venant du fait qu'elle ne trouve pas de plaisir dans les échanges sensoriels et émotionnels avec son bébé. Quand, lors d'un entretien ultérieur, elle reviendra sur l'idée que les bébés s'ennuient et que je lui soumets l'idée qu'un bébé, c'est de la vie qui se déroule et s'éprouve, elle me regarde comme si je lui parlais chinois. J'ai le sentiment que quand on est petit bébé, on est encore handicapé. On a tout le temps le nez dans le tapis. C'est comme une maladie pour moi. Ça me rend triste. J'ai l'impression qu'il va rester tout le temps comme une limace sur le tapis. J'ai du mal à penser que ça peut être un moment agréable de la vie. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je lui fasse faire des choses. Au bout de 3 entretiens, elle dit spontanément que ce sentiment de ne pas savoir quoi faire provenait de ce qu'elle ne savait pas quoi faire de lui. Un peu plus tard, au cours de la thérapie, elle me dira « ça va mieux ». Tout d'un coup, je me dis « il existe vraiment ». Parce qu'elle ressentait devant l'enfant, c'est exactement ce dont parlait Leandro ce matin, ce sentiment d'étrangeté. C'est étrange quand même qu'il existe. Ça ne me fait pas ça pour le reste des individus, sauf pour ceux qui sont décédés, en négatif. Et on a aussi beaucoup de mères qui nous parlent de cet enfant comme d'un extraterrestre, elles le disent elles-mêmes. Une des difficultés majeures d'Isabelle avec Melvin est la poussette. Il ne s'y plaît pas, dit-elle. Il hurle, elle n'arrive pas à l'y installer, alors qu'il accepte bien d'être porté dans le kangourou, ce qui va jusqu'à limiter ses déplacements. Assez rapidement, elle se rend compte qu'il est content dans le kangourou quand il regarde vers l'extérieur. Ça me repose et ça le repose du vis-à-vis. Dans la poussette, il est encore accroché à mon regard. Il est polarisé sur moi. Une des difficultés et des toxicités majeures, tant pour l'enfant que pour la mère, de la relation précoce mère-enfant, est d'être exclusivement duel. Lorsque je présente l'unité d'accueil à de nouvelles patientes, elle m'interrompt presque toujours en me disant avec soulagement « alors je ne vais plus être toute seule ». Isabelle a pu parler à son mari du fait qu'elle se sentait seule avec Melvin malgré la présence de celui-ci, qui s'est alors un peu plus impliqué à s'occuper du bébé. Ce qui a permis que Melvin fasse des choses, c'est comme ça qu'elle le dit, avec son père, qu'il ne fait pas avec elle, et l'a beaucoup soulagée. Cependant, elle amène le récit d'un cauchemar, ce qu'elle appelle elle-même un cauchemar. J'étais dans la maison avec mon mari, sa fille, il a une fille de 4 ans d'un premier mariage, et Melvin. Eux parlaient entre eux, moi je faisais attention au bébé. C'est encore moi qui m'y colle, pensais-je. Le bébé était dans sa poussette. Je me suis dit, il ne dit rien, et j'allais le voir. En fait, il avait les deux épaules démises, les bras repliés en W, les articulations sorties. Le bébé était tétanisé. Dès qu'il faisait un mouvement, il éprouvait une souffrance horrible. Vite, il faut aller aux urgences. Comment faire? Il ne dit rien, et donc il ne se passe rien. Si je ne m'étais pas inquiétée. Elle associe alors que dans la poussette, il a tendance à tenir les bras en l'air, qu'elle les lui ramène vers le bas, que quand on l'habille ou le déshabille, ce qui était aussi sa très grande difficulté avec Melvin, il a les bras, dit-elle, qui poussent dans les manches. « Faut faire attention, » dit-elle d'un air pensif. Et elle se souvient alors que quand son frère, âgé de 12 ans de moins qu'elle, était petit, elle lui faisait faire l'avion. Il s'était démis le coude, personne ne s'en était rendu compte. C'est le lendemain à la crèche qu'on avait appelé sa mère. Et c'est elle-même, Isabelle, qui était allée le chercher et l'avait conduit chez le pédiatre qui avait remis le coude. On voit bien ici la projection de la culpabilité inconsciente de la mère sur l'enfant et la façon dont le bébé se fait, dans son corps, l'objet du fantasme de la mère. Car cet enfant hurlait effectivement chaque fois que quiconque l'habillait, que ce soit la mère ou quelqu'un d'autre. Elle remarque que les bébés, il faut beaucoup les porter pour qu'ils puissent être paisibles, pour éviter l'angoisse, le stress. C'est comme si on endiguait un fleuve qui revient tout le temps. Une autre jeune femme, Carole, me disait « Avec ma première fille, je faisais à l'instinct. Avec la seconde, je ne sais pas y faire. » En particulier, au moment d'échange, elle bouge trop. Je ne peux pas la tenir. Je suis comme un naufragé sur un rocher qui ne doit pas bouger. Mais avec un enfant, pas possible de ne pas bouger. La mère, et ces jeunes femmes le sentent bien, doit être active, libidinalement phallique avec son enfant pour pouvoir le porter, le nourrir, le manipuler, le contenir même. C'est, je pense, ce que signifie ce mot « faire » qui revient avec une telle insistance dans leurs paroles. Je cite Françoise Dolto, « La gestique d'une femme avec son enfant est quelque chose qui fait une grande partie du travail de la mère avec l'enfant. » Le flux de la vie pulsionnelle de l'enfant, qui se manifeste à l'état quasiment brut, a un retentissement sur la vie pulsionnelle de la mère. C'est pour cela que, comme Isabelle ou Carole, elles se sentent souvent menacées d'être emportées par un flot incontrôlable. Si la femme n'est pas solidement construite, si ses propres pulsions ne sont pas métabolisées et organisées, cela peut avoir sur elle un effet dévastateur. La vie du bébé, vie à l'état brut, déclenche des excitations libidinales partielles trop fortes qui peuvent faire voler en éclats sa propre organisation pulsionnelle fragile. Moi, je ne suis pas encore construite. Je suis tout le temps en survie, me disait Maria, la mère d'une petite Inès. Ma fille, ça a été comme une boule de billard qui tape dans le tas et fait partir toutes les autres boules dans tous les sens. Le travail des accueillantes, qui accompagnent en permanence ces échanges corporels, cette gestique nécessaire, vise précisément à médier le flux pulsionnel pathogène, en s'associant au travail de la mère sans jamais l'invalider, en mettant des mots sur ce que celle-ci ressent, sur ce que l'enfant peut ressentir, quitte à parler à sa place. Par exemple, « ça ne doit pas être agréable d'être ainsi frictionné si fort, j'en deviens tout rouge ». Ou alors là, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'aller me reposer. Peu à peu, la mère, qui aura parallèlement travaillé ses difficultés propres dans les entretiens avec son psychanalyste, pourra subjectiver son enfant et lui reconnaître ou lui supposer des affects distincts des siens propres. Ainsi, lors de sa dernière séance chez nous, Melvin a alors 6 mois, Isabelle me dit « Il commence à ressembler à ce qu'est un bébé. » Le contexte, elle veut dire sa dépression à elle, le contexte est encore présent, mais je ne l'identifie plus à lui. Combien de temps est-ce qu'il me reste? C'est pratiquement fini. Donc je saute après et je viens à ma conclusion. L'image inconsciente du corps se constitue entre la mère et l'enfant dans l'échange relationné des sensations et des émotions et est refoulée au moment du miroir. Françoise Dolto l'a suffisamment dit elle-même, il ne s'agit pas d'une image scopique, mais il ne s'agit pas non plus d'un pur langage au sens du langage articulé. Françoise Dolto parle d'ailleurs d'images olfactivo-respiratoires, barresthésiques, synesthésiques, de préhension orale, d'expulsion anale, etc. Il s'agit d'échanges sensoriels et même sensuels. La parole élabore ses ressentis de la corporéité, les détoxiques éventuellement. Mais lorsqu'on est dans l'actuel de ce moment proche de la naissance, avant l'effectuation de l'Œdipe, on a affaire à des perceptions subtiles qui accompagnent les variations de tensions substantielles en relation à la gestique de la mère et à ses éventuelles défaillances. Ces perceptions ne s'expriment pas par des représentations comme cela se produit dans l'analyse des adultes, où les différentes étapes de l'image inconsciente du corps refoulée peuvent être remémorées et se déployer à travers les mots et les rêves. mais elles sont vécues, dans le cas des bébés et des mères, elles sont vécues hic et nunc. L'intervention de l'analyste vise à soutenir la mère à modifier sa position subjective vis-à-vis de son enfant, qui sera alors dégagé des projections mortifères et toxiques de celle-ci, et à mettre en mots pour l'enfant les difficultés de la mère. Mais il est essentiel d'intervenir conjointement dans le concret des soins maternels précoces, où s'échangent sensations subtiles et substantielles. Françoise Dolto dit, et je terminerai là-dessus, qu'entre la mère et l'enfant, il ne s'agit pas d'un dire, il s'agit d'un être dans l'activité et l'échange. Nous pourrions reprendre ces mots pour définir notre clinique. Un dire, mais toujours pris dans l'activité et dans l'échange. Un faire, toujours médié et soutenu par des paroles, qu'elles soient formulées ou pas. C'est pourquoi, dans notre travail institutionnel, la pratique des consultants et celle des accueillantes sont indissolublement liées, comme les deux faces d'une même médaille. Je vous remercie. Thank you.